RFI.
Alors, on dit quoi ?
Wassalam alaikum, soyez les bienvenus. Non, alors on dit quoi ? C'est Diarra au micro de RFI pour un épisode qui donne toujours la parole à la jeunesse africaine. Jeunesse qui n'hésite pas à suivre les gossips, faire du Congossa, garder le contact avec ses amis, épier ses ennemis, chercher un emploi sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, TikTok. Ils sont indéniablement intégrés dans notre quotidien et les cybermenaces aussi. Car se connecter dans le cyberspace n'est pas sans conséquences. Le partage de renseignements personnels ou les publications de vidéos ou de photos peuvent tomber dans les mains d'acteurs malveillants. Face à des comportements parfois imprudents sur ces réseaux, les cybercriminels en profitent pour tout savoir sur nous. Alors, comment prendre ces précautions avant de publier du contenu ? Les réponses dans quelques instants.
Alors, on dit quoi ? Avec Diarran Ndiaye.
Escroquerie, usurpation d'identité, vol d'informations, cyberharcèlement sont autant de dangers auxquels sont confrontés les utilisateurs des réseaux sociaux et du web. Nous passons d'ailleurs en moyenne 5 heures par jour sur ces applications selon une étude de la société Data AI. Comment la cybersécurité peut nous aider à éviter tout cela ? Eh bien, on en parle avec Abou Ndiaye, qui est expert en cybersécurité, fondateur de l'entreprise Likanam Mabou. Bonjour.
Bonjour, bonjour Diarra.
Merci infiniment d'être avec nous. À nos côtés également, Abdourahman Sarro, qui est également expert en sécurité, fondateur de Midadi Consulting. Toutes vos deux boîtes sont d'ailleurs spécialisées en cybersécurité. Merci infiniment d'être avec nous, Abdourahman.
Bonjour Diarra, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation.
La première question, c'est pour vous, Abdourahman. Alors, on parle de cybersécurité. D'abord, pourquoi c'est important d'en parler ?
C'est important d'en parler quand on regarde les enjeux en fait, qui sont associés à la cybersécurité. Vous venez tout à l'heure dans votre introduction de parler de diffusion de données à caractère personnel, par exemple. C'est aussi important d'en parler si on va dans le cadre professionnel, avec les besoins, en tout cas les enjeux, encore une fois, je me répète, de business. Pour les entreprises qui, en fait, ont envie de prendre de grosses parts de marché, mais d'avoir aussi envie d'avoir une réputation positive vis-à-vis des clients qu'ils gèrent. Et en fait, beaucoup de contexte, encore une fois, qui permet de placer une importance capitale vis-à-vis à la cybersécurité.
Abou, c'est quoi la cybersécurité ? De quoi parle-t-on quand on parle de cybersécurité ?
Alors, quand on parle de cybersécurité en général, c'est tout simplement, c'est un état qu'on va chercher dans un système, dans une organisation, un état qui nous permet de résister aux attaques qui viennent du cyberspace. Mm-hmm. Voilà. Et ces attaques-là, en général, c'est pour mettre en péril ou compromettre, par exemple, la disponibilité d'un service ou d'une ressource dans l'organisation.
Voilà. Et sur quoi on attaque alors l'Afrique d'abord ? Et qui est-ce qui est ciblé ?
Alors, en général, les attaques, que ce soit en Afrique ou ailleurs, on attaque beaucoup les institutions. Mm-hmm. Voilà. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que les hackers vont là où c'est plus facile.
Alors, c'est facile pour les institutions ?
Alors, non, ils vont là où c'est plus facile d'attaquer. Voilà, pour eux. C'est-à-dire, c'est facile pour les hackers. Et en général, ils attaquent les institutions, on va dire les PME, les ETI et les collectivités aussi, hein, qui sont de plus en plus attaquées. Mm-hmm. Voilà, parce que voilà, c'est plus facile pour les hackers. Ce sont des organisations qui sont moins protégées par rapport à d'autres.
Mais Abou, qui sont ces hackers ? Est-ce que d'ailleurs les hackers qui hackent le continent africain sont les mêmes que ceux qui sont en train d'attaquer les États-Unis, par exemple ?
Alors, on pourrait avoir les mêmes. Les hackers, ils sont très, très organisés. Hein. Ils sont très organisés et très spécialisés. Voilà. Dans leur organisation, ils peuvent... on peut avoir vraiment un groupe de hackers où il y a une partie qui produit les outils qui peuvent attaquer. D'accord ? Et d'autres qui vont commercialiser. Mmh. Et on a d'autres qui sont tout simplement en train de distribuer le produit. Et aussi...
C'est une réelle organisation.
C'est
hein.
une réelle organisation. Voilà, c'est une réelle organisation. Et après, la fin de la chaîne, qui vont utiliser tout simplement ce qui a été produit pour attaquer. Mmh. D'accord ? Voilà. Et en général, ceux qui attaquent, que ce soit les États-Unis ou d'autres pays, voilà, tout dépend de l'objectif. Hein. Voilà. Si l'objectif, il est tout simplement...
Quand on parle d'usurpation d'identité, par exemple.
Alors, quand on parle d'usurpation d'identité, là, ça peut être les mêmes attaquants. En revanche, si on parle d'attaque avec des enjeux géopolitiques, là, ce n'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes attaquants aux États-Unis ou qui ciblent l'Afrique.
L'Afrique, par exemple. Abdulrahman, quels sont les moyens d'intrusion possibles?
Avant de revenir à cette question en complément, ce qu'on a entendu parler de village planétaire, ça veut tout simplement dire, la cyberespace c'est un village planétaire, c'est qu'il n'y a pas de frontières.
Ouais.
Donc
donc on
aujourd'hui,
peut très bien être aux
aux
États-Unis et
États-Unis,
hacker le
et
Sénégal.
virtuellement être au Sénégal ou dans un autre pays. Et donc, du coup, à partir du moment où le système en face est facilement compréhensible, bah, il se lance quoi, à attaquer, comme il le disait, soit leur disponibilité ou les autres critères de sécurité qu'on verra dans la suite.
Et donc, quels sont les moyens d'intrusion?
Les moyens d'intrusion, on peut en fait attaquer un système d'information. On interroge, par exemple, le système d'information à travers ses potentielles vulnérabilités qu'elle peut présenter. Mais on dit souvent, moi je ne suis pas très d'accord avec cette phrase-là, que le maillon le plus faible, c'est l'être humain. Pour moi, c'est l'être humain le maillon le plus fort à partir du moment où il est sensibilisé et éduqué. Mais parce que, en fait, finalement, quand les attaquants parviennent à en fait, nuire au système d'information, c'est que c'est parti très souvent d'un clic d'un être humain. Donc, si l'être humain n'est pas sensibilisé, finalement, facilement, il peut cliquer sur un peu
Bah, on
n'importe
va
où.
justement sensibiliser nos auditeurs aujourd'hui, hein. C'est tout
Voilà. Et
l'objet de
donc,
cette émission.
ouvrir la brèche donc, à ces attaquants-là. Et à partir de ce moment, il peut attaquer à la disponibilité de l'information, il peut attaquer à son intégrité, à sa confidentialité, etc.
Et quels sont les types de cybermenaces les plus répandues actuellement?
Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le phishing. Le phishing est un
Donc
des
c'est
types de
quoi phishing?
cybermenaces.
On
Voilà,
parle
phishing.
en français facile hein, pour
Ouais,
nos
alors,
auditeurs.
ouais, phishing, donc ça vient du mot fish en anglais qui veut dire poisson. Donc, quand on est à la pêche, à la mer, on jette en fait son hameçon, on essaie en fait de ficher le plus gros poisson qui se présente à nous. Donc, quand les attaquants se mettent à faire du phishing, en fait, ils envoient un pool de mails, par exemple, à tous les systèmes qui peuvent présenter des vulnérabilités. En disant, par exemple, vous venez de gagner un iPhone 18, vous
Ouais.
pouvez cliquer sur ce
Ce qui
lien
est
pour vous faire.
totalement faux. On a tous reçu
Exactement.
ce type de message,
Voilà.
ce
Et puis, en
mail.
fait, pour les gens qui ne sont pas sensibilisés, ils peuvent dire, ah oui, c'est mon jour de chance. Et une fois qu'ils cliquent, en fait, sur ce lien-là, ils sont redirigés vers une autre page où on leur demande certaines informations. Et ces informations sont par la suite exploitées par les pirates pour pouvoir, par exemple, voler des données ou nuire, en fait, un système d'information.
On a à bout le nombre d'incidents de cybersécurité qui augmente chaque jour, mais il y a beaucoup aussi d'idées fausses qui circulent autour de cette cybersécurité. Lesquelles, par exemple?
Ça fait quelque temps qu'on parle de cybersécurité, mais avant, personne n'entendait parler.
Ouais.
Alors, ça a explosé. Pour moi, il y a eu deux tournants. Le premier, c'est quand il y a eu les crypto-monnaies. Alors, avec les crypto-monnaies, là, les hackers se sont mis vraiment à accélérer avec ce qu'on appelle des rançons logicielles. Les rançons logicielles, c'est tout simplement, on va vous installer quelque chose sur votre ordinateur qui permet de crypter toutes vos données. D'accord?
Donc même si on a mis par exemple notre carte bleue ou l'ensemble de nos informations sur notre carte d'identité, on peut
On peut tout vous
le
voler.
voler.
Voilà, on peut tout vous voler et tout est crypté. Et maintenant, c'est en possession du hacker. D'accord? Et à partir de ce moment-là, le hacker demande en retour de payer une rançon.
C'est une rançon.
Voilà, c'est une rançon. Et cette rançon-là, en général, vous la payez. Et voilà, c'est quand il y a eu l'événement de la crypto-monnaie, ça a explosé. D'accord? Et le deuxième tournant qu'on peut observer sur les cyberattaques, c'est quand il y a eu la guerre en Ukraine. Voilà. Cette guerre en Ukraine et aussi le Covid. Voilà, le Covid, tout le monde s'est retrouvé chez soi. Là, les hackers, voilà, c'est des gens en général comme vous et moi qui travaillent. Il y en a qui font que ça de hacker et d'autres travaillent dans la journée et le soir, ils vont hacker. Et là, quand tout le monde s'est retrouvé chez soi, les hackers sont retrouvés avec beaucoup de disponibilité pour hacker
Comme
beaucoup de
tout le
plus en
monde,
plus.
et vous, beaucoup de travail, du coup, vous qui êtes
Et pour nous,
expert
voilà,
en cybersécurité.
et avec Abdourahmane, beaucoup de travail, c'est ça.
Abdourahmane, les hackers sont de plus en plus innovants. Comment vous vous positionnez face aux menaces évolutives, justement? Vous, c'est votre travail
Au
d'essayer
quotidien.
de contrecarrer ces gens-là. Comment on s'adapte? Est-ce que vous êtes en veille perpétuelle? Est-ce que vous êtes en quête, vous aussi? Comment vous faites pour avoir des coups d'avance?
Il faut, c'est compliqué d'avoir des coups d'avance avec eux
Vous
parce
êtes en
qu'en
retard,
fait,
vous.
on peut dire ça, on peut ne pas le dire, ça dépend du contexte dans lequel on se trouve. Mais en tout cas, effectivement, ils sont aussi bien sensibilisés que ceux qui protègent. Et en fait, comment on fait? Bah, on essaie de sensibiliser, on essaie de passer vraiment la pilule au maximum. comme je disais tout à l'heure, au maillon le plus fort. Mmh.
Donc, mais c'est quoi, vous prenez des attaques les plus répandues, vous essayez de contrer ça? Comment, expliquez-nous vraiment.
Alors, en fait, dans les entreprises, l'organisation est telle qu'en fait, il y a souvent des organisations qui sont faites entre entreprises, de sorte qu'ils se partagent des informations assez régulièrement sur les nouvelles failles de sécurité qui sont découvertes, sur comment est-ce que ça va être résolu, pour que derrière, les entreprises, dès qu'elles sont au courant, ils puissent tout de suite réagir et ne pas attendre en fait.
Oui, mais quand on est particulier, là c'est pour le cas des entreprises ou des collectivités territoriales?
Alors quand on est particulier, c'est à moins qu'on soit en fait de très bonne volonté et aussi de se dire, bon, je suis dans un monde quand même qui est un peu risqué parce qu'il y a les cybermenaces qui sont présentes. Donc je prends le soin d'aller par moi-même aller chercher l'information et de voir quelles sont les meilleures
habitudes.
Il faut
être curieux, quoi.
Il faut être très très curieux. Mm. Parce que souvent en entreprise, voilà, ils sont aussi, comme le disait tout à l'heure Abou, c'est vous et nous qui sommes aussi en entreprise,
bien sûr.
On a la chance d'avoir des cellules, des entités, des directions qui gèrent la partie cybersécurité et donc qui font le travail de sensibilisation.
C'est ce que vous faites justement, Abou, vous, auprès des collectivités territoriales ici dans les Yvelines. Cette question est prise très au sérieux.
Tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, toutes les collectivités se posent la question sur la cybersécurité parce qu'on voit que toutes les semaines, il y a une collectivité qui est attaquée.
Voilà. Là, on a vu des hôpitaux, on a vu des étals au Sénégal récemment.
Exactement, au Sénégal. Un peu partout. Il y a l'hôpital, le CHU de Rennes qui a été attaqué cette semaine. Et là, on a vu hier le Schneider Electric qui est un grand groupe qui s'est fait attaquer aussi. Et côté Afrique, on a BGFI Bank qui s'est fait attaquer. Et on leur a demandé. Alors, les hackers ont demandé 1,5 million d'euros pour ne pas divulguer les informations. Voilà.
Est-ce que les entreprises payent ces rançons?
Alors, à cette question...
Ou ça reste secret comme un otage humain?
En fait, ça reste un peu secret. Il y en a qui payent quand même, voilà, pour être lucide. Il y en a qui payent, mais la recommandation, c'est de ne pas payer parce que si on paye, ça veut dire qu'on contribue à encourager ce type de pratique. Voilà. Il y en a qui payent parce que tout simplement, ils se posent la question, alors, si je paye, je récupère tout.
Mm-hmm. Voilà. Ou pas?
Ou pas. Voilà, ou pas. Mais sauf que, bon, quand on est les décideurs, quand ils sont dans cette situation-là, c'est une situation de panique. Mm-hmm. Il faut aller très vite.
Oui.
Et ils se disent, bon, OK, si je paye, je récupère. Ils ne regardent pas l'autre option ou pas.
Ouais. Mais ce qui est embêtant, c'est que finalement, vous faites tout pour combler les lacunes de sécurité, mais les attaquants sont toujours à la recherche, eux, de nouveaux moyens d'échapper à la vigilance de l'informatique. Ils sont en train de chercher comment contourner les mesures de défense et d'exploiter ces faiblesses. Mais en fait, c'est une quête perpétuelle. Vous n'allez jamais vous arrêter d'un côté comme de l'autre. Abou, et ensuite, je vous laisse réagir, Abdelrahman.
Ouais, alors, oui, par rapport à ça, effectivement, on est toujours en évolution constante, voilà, ce qu'on appelle de l'amélioration continue. Voilà, on ne peut pas dire qu'on est sécurisé
à 100%. Ça n'existe pas, un système 100%.
Voilà, ça n'existe pas. Et souvent, les hackers vont tout simplement regarder la petite fenêtre qui est ouverte. Voilà. C'est comme rentrer dans une maison, ils vont chercher autour de la maison où est-ce qu'il y a un petit trou ou une petite fenêtre qui est ouverte pour rentrer. Et parfois, c'est tout simplement, il y a les fondamentaux, voilà, comme le disait Abdelrahman tout à l'heure, il y a des entreprises où on n'a pas les fondamentaux qui sont déjà en place. Voilà.
Donc c'est aussi de la sensibilisation et une découverte de métier peut-être pour certaines...
La sensibilisation et aussi de dire, mettez en place au minimum ce type de dispositif, voilà, pour ralentir les hackers.
Mmh.
Voilà.
Nous, ralentir, métier, c'est un bon terme.
Notre métier, c'est vraiment ralentir le hacker. Et quand le jour où il sera là, au moins on peut être au courant et se préparer pour réagir.
Mmh. Abdelrahman.
Oui. Alors aujourd'hui, justement, pour compléter ça, on parle plutôt de cyber-résilience.
Mmh.
Le terme cyber-résilience veut tout dire. Ça veut dire qu'on est dans une situation où il est quasi impossible de dire en fait que je suis 100% sécurité,
ouais,
et que je ne serai jamais hacké, je ne serai jamais piraté. Donc, lorsque les entreprises ou même les collectivités territoriales ou autres tendent vers cette cyber-résilience, c'est en fait une façon de se préparer à ces attaquants. Au jour, je serai attaqué, il n'y a pas de problème.
Ouais, mais on essaye d'être prêt.
Voilà, mais une fois que je le suis, on dit d'ailleurs que la France fait partie des pays les moins payés en rançon.
Mm.
Donc, du coup, ça veut dire que simplement aussi, ils investissent à cette cyber-résilience-là et font en sorte que lorsqu'elles sont attaquées, il n'y a pas de problème, on ne paye pas de rançon logicielle, mais on a quand même pris les devants pour potentiellement se préparer à une continuité d'activité malgré qu'il y a eu quand même une cyberattaque.
C'est un fléau planétaire, hein, il faut le dire, le cybercrime. Alors, on le dit, hein, ce sont que des chiffres, mais bon, ça coûte 528 milliards de dollars à l'économie mondiale. En Afrique, le coût est estimé à des pertes liées à la cybercriminalité de 4 milliards. Pour moi, c'est tellement infime, c'est vraiment à minima, on va dire, 4 milliards. Est-ce qu'on peut commenter ces chiffres quand même ? C'est énorme.
En Afrique, quand même, il y a beaucoup, beaucoup de pertes. Je le disais tout à l'heure en off avec
Abou
par rapport à d'autres collègues que je connais sur le continent. Des scénarios, en fait, qui expliquent des pertes financières, mais énormes, qu'on ne peut pas tout de suite mettre sur le dos, en fait, de la piraterie ou sur le dos du hacking. Mais en fait, c'est des options.
Mais des pertes parce qu'ils payent des rançons ou des pertes économiques,
non,
dans quel sens?
Non, c'est des pertes qui sont liées à des failles de sécurité exploitées en fait. Par exemple, dans le milieu bancaire en Afrique, ce qui est très présent, c'est de la fraude. Donc cette fraude-là, en fait, c'est une sorte aussi de faille de sécurité exploitée par les fraudeurs. Et aujourd'hui, il y en a qui adoptent l'option de ne pas en fait mettre des mesures de sécurité pour couvrir ces fraudes-là sous prétexte que mon concurrent en perd beaucoup plus que moi.
Mais Abou, c'est aussi beaucoup de méfiance en impact. Alors, on parle d'impact économique, effectivement, mais le client, lui, quand il sait ça, ou quand il lit ça, ou quand il voit ça à la télévision, ça a quand même un impact plus fort pour la clientèle qui va être davantage méfiante.
Oui, tout à fait. Ça a un impact chez les clients. D'ailleurs, on dit que le client est de plus en plus exigeant, parce qu'il va aussi s'intéresser à cette question-là de cybersécurité. Et si on prend un service en ligne, le client, avant de payer, il va regarder si le site est sécurisé. Et parfois, celui qui est curieux, il va aller vraiment regarder les conditions de protection de ses données. Ça, c'est un
vous
vrai
le faites,
impact.
Vous, Abou, pas l'expert en sécurité, mais est-ce que vous le faites, vous?
Alors, je le fais parce que, voilà, par réflexe, je le fais, hein, avant d'acheter quelque chose sur un site. Et ça veut dire que si le site n'est pas assez sécurisé aujourd'hui, ou qu'on est une organisation, on n'a pas pris en compte cette partie-là, ça fait perdre une clientèle qui est curieuse, qui est de plus en plus exigeante.
Mais nous, par exemple, on nous a appris, lorsque l'on renseigne une carte bleue, on voit le HTTPS quand ça arrive. Alors, est-ce que c'est un bon conseil? Quand on voit le S, ça veut dire que c'est vraiment sécurisé? On peut mettre sa carte bleue et ne pas être en panique deux minutes après parce qu'on vient de se faire pirater sa
Alors,
carte.
En tout cas, c'est un indicateur qui est rassurant d'avoir le HTTPS. Ça veut dire qu'il y a une communication sécurisée. D'accord? Après, il y a d'autres paramètres qu'il faut regarder. Hein. En général, c'est tout ce qui est paiement en ligne. Il faut regarder est-ce que c'est le bon site.
Oui.
Par exemple.
Mais on peut avoir un site dupliqué, on peut pas savoir.
Voilà. On peut avoir un site dupliqué qui est sécurisé. Oui. Mais voilà, il y a beaucoup de choses à regarder.
Abdou, en quelques mots, Abdourahmane.
Oui, alors en fait, ce que je voulais dire, aujourd'hui, on a en fait ce qu'on appelle la cyber réputation. À l'image en fait des produits que l'on prend au supermarché, où on a la note, le Nutri-Score A, B, C. Aujourd'hui, certaines sociétés aussi ont une cyber réputation à fournir, qui pourrait en fait rassurer certainement les clients.
Donc peut-être quelque chose à développer.
C'est en place en France.
C'est déjà en place.
Et donc certaines sociétés s'efforcent à avoir ces bonnes notes pour en fait rassurer les clients et rassurer les partenaires.
On va continuer de parler de tout cela dans quelques instants. On écoute d'abord J5, I Wish. Girl, it's been so difficult to ease up when you're gone. It's a little rough, so I had to write a song. And I hope you sing along. The only YOLO that I
you.
J5, I Wish, dans Alors on dit quoi ? Vous écoutez une émission spéciale pour vous donner quelques tips autour de l'utilisation des réseaux sociaux, bien surfer avec nos deux experts ici présents en cybersécurité, Abou Ndiaye et Abdourahmane Sarro. On va prendre tout de suite la direction du Cameroun. Le nombre d'utilisateurs des réseaux sociaux qu'enregistre le pays en 2023 est estimé à quasiment 4 millions de personnes. Et ces cyberconsommateurs représentent un terreau fertile pour les criminels qui ont investi la toile et usent de tous les stratagèmes afin de faire fortune. Les campagnes de sensibilisation organisées par les pouvoirs publics et les regroupements de consommateurs peinent à convaincre des dangers qui rôdent sur les réseaux sociaux. Plus de précision dans ce reportage de Charles Thierry.
Selon un récent rapport de l'Agence nationale des TIC, Antique, les champs de prédilection où agissent les criminels du web au Cameroun sont surtout le scamming et l'hameçonnage. Pour la seule année 2021, les Camerounais ont perdu 12,2 milliards de francs CFA. Observe l'Antique. Ces chiffres prouvent à suffisance que les cybercriminels sont actifs sur la toile. Le mode opératoire de ces malfaiteurs est diversifié sur les réseaux sociaux. L'objectif recherché par ceux qui s'adonnent à cette activité malveillante est à chaque fois le même, à partir de potentielles cibles dans le but de leur faire subir une duperie. C'est un utilisateur avisé que Philippe Eyebé se connecte au quotidien.
Je ne clique pas sur les liens que je ne connais pas, je ne rentre pas dans les groupes que je ne connais pas. Les mails que je ne connais pas, je bloque systématiquement et je vérifie si l'adresse mail est vraiment sous la forme que requiert la présentation des adresses mail d'une organisation.
Malheureusement, toutes les personnes ne sont pas toujours avisées des risques encourus sur le web. Miss Pango a souvent été victime des cyberarnaques.
J'avais reçu un lien soit via Facebook, j'ai cliqué le lien et le lendemain, les cybercriminels avaient eu accès à mon compte Facebook, mon compte Instagram.
Depuis lors, elle prend certaines précautions quand elle se connecte sur la toile.
Je n'accepte plus les demandes d'amis dès que j'ai un doute. Je rends ma liste d'amis visible. Même toutes les informations que je mets en ligne, je les rends visibles. Je ne clique pas sur les liens qu'on m'envoie. Et Google m'a fait savoir que Meta ou tous les autres grands noms de l'Internet n'envoient jamais de liens à leur contact directement. Donc du coup, depuis, je fais très attention.
Toujours selon le rapport de l'Antique, l'usurpation d'identité est une infraction de plus en plus répandue sur les réseaux sociaux dans le pays. En 2019, par exemple, environ 5500 faux comptes sur Facebook ont été utilisés par les cybercriminels pour arnaquer des citoyens non avertis. Plus de 4000 de ces comptes ont d'ailleurs été fermés en collaboration avec le réseau social concerné. Pour éviter de tomber dans le piège de ces criminels du web, les spécialistes en cybersécurité recommandent aux usagers d'observer certaines mesures au quotidien. Benjamin Tanga.
Ne pas accepter les demandes d'amis quand tu as un doute, car une fois que quelqu'un est dans ton cercle d'amis, il peut l'utiliser pour réinitialiser ton mot de passe. Rendre ta liste d'amis invisible, de même que toutes les informations que tu mets en ligne. Éviter de cliquer sur les liens que l'on nous envoie, et à chaque fois que l'on reçoit des mails, toujours vérifier le style et le registre de langage de l'expéditeur.
L'expert poursuit en prescrivant à l'attention des abonnés plus de vigilance.
Les grandes entreprises comme Meta ou Instagram n'enverront jamais de mail avec des fautes. Il faut donc bien regarder l'adresse email. contact@meta.com est différent de contact@meta.com. Le premier avec un A de trop vient certainement des hackers.
Au Cameroun, les cyberarnaques sont très fréquentes dans le domaine des services financiers mobiles, la banque et les services de paiement en ligne.
Merci Charles. Alors, on a pris la direction du Cameroun, mais on revient ici à Paris. Abdourahmane, peut-être une réaction après l'écoute de ce reportage. Qu'est-ce qui vous a interpellé et vous a fait sourire aussi pendant le reportage, on vous a vu?
Oui, parce que ça faisait un petit récapitulatif, un résumé de ce qu'on venait de dire, en fait, sur, par exemple, les réflexes à avoir lorsqu'on surfe sur Internet, à ne pas cliquer sur n'importe quoi, à faire attention aussi à son cercle d'amis sur les réseaux sociaux. Et donc, ouais, c'est très bien. C'est très bien. C'est qu'aussi en Afrique, on est aussi bien, quelque part, sensibilisé, intéressé par le sujet. Ça fait boum au cœur.
Abou, une réaction ?
Alors, ma réaction, ce sera la même. Hein, c'est que voilà, il y a une prise de conscience qu'on voit aussi en Afrique sur ces sujets-là, surtout sur le volet réseaux sociaux, où les gens sont très, très actifs en Afrique.
RFI à Yaoundé, 105.5 FM.
Alors, on dit quoi ?
Alors, on va prendre des questions maintenant de nos auditeurs, parce que les auteurs de cybermenaces utilisent de nombreuses stratégies pour inciter les gens à leur dévoiler des renseignements personnels, et c'est là que le danger intervient. On a par exemple Aïcha, qui est justement au Cameroun, une étudiante en journalisme, et qui a une question à nous poser. Aïcha, bonjour.
Bonjour Diara, bonjour à vos invités.
Merci Aïcha de nous rejoindre. Alors dites-nous, vous avez une question à poser à nos experts, on vous écoute.
Oui, après le reportage, je constate qu'il faut être vigilant. Mmh. Mais en dehors de la vigilance, quelles sont les méthodes qu'on peut utiliser pour garder nos comptes sécurisés, nos comptes médias sociaux et des mails?
Alors Abou, une réaction, que peut-on faire pour garder nos comptes sécurisés, nous demande Aïcha.
Alors ce qu'on peut faire pour garder les comptes sécurisés, c'est on peut adopter des réflexes basiques qui sont quand on reçoit une invitation, on s'assure de connaître la personne avant d'accepter.
Que ce soit sur Facebook, Insta ou LinkedIn, par
exactement,
exemple.
Exactement, LinkedIn et aussi Facebook, même aussi des mails qu'on reçoit. Voilà, toujours avoir une méfiance des invitations qu'on reçoit. Voilà, ne pas cliquer systématiquement sur les liens qu'on reçoit. Mm-hmm. Et aussi, il y a un système sur la partie authentification sur vos comptes. On peut mettre en place la double authentification. Voilà, si elle est disponible. Aujourd'hui, voilà, tous les réseaux sociaux quasiment le proposent. Et cette double authentification, c'est tout simplement quand il y a une nouvelle connexion sur votre compte, depuis un nouvel équipement,
on nous informe automatiquement
et on reçoit un SMS, un code par SMS qu'on doit rentrer pour la connexion. Mmh. D'accord ? Ça veut dire que si vous n'êtes pas à l'origine de cette demande de connexion, la personne n'aura pas le SMS, la personne ne pourra pas se connecter à votre compte.
Est-ce que c'est ce que vous faites déjà, Aïcha ?
Non, je ne le faisais pas.
Ah ben voilà, on a sauvé quelqu'un peut-être. Merci infiniment Aïcha pour cette question. Alors, est-ce qu'on a d'autres auditeurs en ligne qui souhaitent justement nous parler? On va prendre tout de suite la direction du Bénin. Emmanuel a une autre question pour vous, chers experts. Emmanuel, bonjour.
Bonjour Diana.
Alors Emmanuel, vous aussi vous êtes journaliste, décidément ce sont tous nos confrères et consœurs qui nous appellent aujourd'hui. C'est un hasard, je tiens à le préciser. Emmanuel, vous pouvez interagir avec nos invités, hein. On est à l'écoute.
Ok, j'ai bien écouté le reportage. La question qui me vient à l'esprit directement, c'est comment la cybersécurité peut aider les journalistes à la fiabilité des informations et à la sécurité?
Merci pour cette question. Alors, c'est vrai que c'est important, hein, l'information, elle circule à foison. Comment on se positionne? Comment la cybersécurité peut nous aider?
Oui, bonjour Emmanuel. Et je me permets de faire un petit coucou aux amis du Bénin, à un ami très proche aussi, Roméo Devenant, qui est expert aussi cybersécurité et qui travaille pour le Bénin. Mm-hmm. La question, c'est surtout comment, en fait, rendre fiables les informations que vous recevez des sources. Donc, il faut absolument se rassurer, bien sûr, de la source de cette information-là. Et pour ce faire, on a des outils, en fait, qui peuvent être présents sur Internet.
Ça, c'est pour lutter contre les fake news, hein. On parle de ces outils-là.
Non, c'est surtout par rapport aux journalistes, parce que quand vous recevez des informations, effectivement, vous pouvez être manipulé aussi, hein, c'est-à-dire être appelé à diffuser des informations pour lesquelles, finalement, on se rend compte à la fin que c'est des fake news. Ouais. Donc, vous avez besoin, en fait, de vous assurer par rapport à la source de l'information. Et une fois que c'est le cas aussi, bien sûr, par rapport au canal de transmission, vous le disiez tout à l'heure sur le HTTPS, un canal sécurisé permet de s'assurer que durant le transfert de l'information, cette information garde son intégrité et sa confidentialité. C'est des solutions, c'est des mesures qui peuvent permettre de le faire. Donc, pour ce faire, par exemple, les échanges de mails permettent de s'assurer de la bonne information reçue, mais bien sûr, s'assurer que la source et la destination sont des mails bien fiables. Comme le disait tout à l'heure dans le reportage, contact@meta.com avec contact@meta.com avec deux A n'est pas différent. Donc, c'est différent, pardon. Donc, il faut bien s'assurer que...
Ce sont des petits signes un peu... C'est dans le détail, hein, quand même. Hein, parce qu'ils arrivent à dupliquer des sites parfois.
Exactement, c'est dans le détail. Parce qu'aujourd'hui, ils sont vraiment très compétents. Ils ont les moyens. Donc, copier un site est quasiment très facile pour eux. Mais il y a des choses, ils ne peuvent pas les copier. Ils ne peuvent pas copier une identité, un autre domaine bien précis. Mais voilà, si...
Quand on nous demande, par exemple, pardonnez-moi de vous couper, de cliquer sur les images pour reproduire, voilà, il y a un feu rouge. Dites-nous où est le feu rouge sur cette photo. Est-ce que ce sont des moyens de sécuriser le site Internet?
Ça, c'est une mesure de sécurité qu'on peut appeler le CAPTCHA.
CAPTCHA.
C'est le CAPTCHA. En fait, c'est pour s'assurer que lorsqu'on se connecte sur une interface, que ce n'est pas un robot qui le fait.
D'accord.
Parce qu'à cette question-là, il faut être un humain, puisque c'est très aléatoire. Mm-hmm. Il faut être un humain pour répondre à cette question-là. Et si cette CAPTCHA n'est pas présent et qu'on nous demande, par exemple, juste d'éditer un identifiant et un mot de passe, si le pirate, il a une banque d'identifiants et un mot de passe, il va le tester jusqu'à réussir à se connecter.
Ouais. Et ça me fait penser, vous parlez d'humains et de robots, ça me fait penser à l'IA. On a parlé la semaine dernière, justement, de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a une corrélation entre l'intelligence artificielle et la cybersécurité?
Complètement, complètement, parce qu'on reste dans le même monde, dans le monde du cyberespace, dans le monde de l'IT. Et aujourd'hui, justement, on parlait de cyber. On ne va pas citer en fait cette intelligence en fait artificielle qui a fait un grand buzz dernièrement, mais pour lequel beaucoup de sociétés qui l'utilisent se retrouvent aujourd'hui piratées, hein, à travers les informations qu'ils diffusent.
Donc un danger,
parce que aussi encore une fois, le maillon le plus fort n'est pas sensibilisé à l'utilisation de cet outil.
Emmanuel, est-ce qu'on a un petit peu éclairé votre esprit avec cette réponse autour de l'information et de la cybersécurité?
Oui, je suis parfaitement satisfait.
RFI à Niamey, 96.2 FM.
Alors, on dit quoi?
Alors, Alassane n'est pas là, mais on va se faire son porte-voix parce qu'il nous a partagé cette question très pertinente sur nos réseaux sociaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous contacter sur WhatsApp au 33 647 740 742 si vous avez des questions, des interrogations et des avis. Il nous demande, Abou et Abdulrahman, est-il possible de maintenir son adresse mail pendant plusieurs années, même jusqu'à 20 ans? Est-ce que c'est sécurisé de faire ça?
Alors oui, bien sûr, c'est sécurisé de garder son adresse mail. En général, on a une adresse mail ou deux adresses mail et qu'on ne change pas tout le temps. En revanche, ce qu'on change, c'est le mot de passe.
Oui, parlons du mot de passe.
C'est le mot de passe qu'on change très souvent. Et parce que voilà, il peut arriver que le mot de passe qu'on a choisi au tout début, qu'on n'ait pas fait attention. Mais aujourd'hui, voilà, il est recommandé d'avoir un mot de passe robuste.
C'est quoi robuste?
Un mot de passe robuste, ça veut dire c'est un mélange de chiffres, de caractères, majuscules, minuscules,
de caractères
spéciaux.
Et comment on se
rappelle
de tout ça, sincèrement, Abou?
Alors, c'est très simple en soi. Hein. C'est très simple. Il y a une technique qui est de dire, on choisit une phrase. Une phrase qu'on aime bien. Et dans la phrase, on prend les débuts de chaque mot. On prend les lettres qui sont au début de chaque mot. D'accord? Par exemple, aujourd'hui, on est dans l'émission « Alors, on dit quoi ?» Voilà. La phrase, ça peut être « J'aime bien l'émission « Alors, on dit quoi ?» de 14h. Par exemple, ça c'est la phrase que j'aime bien et je prends dans la phrase le début de chaque mot, je pioche des lettres voilà, et que je mets dans mon mot de passe et ça veut dire que quand je me connecte à mon compte, je pense à cette phrase là et je pense à la technique que j'avais adoptée pour créer mon mot de passe.
Et en ajoutant les caractères, les chiffres, on s'y perd?
Alors, on ne s'y perd pas parce que c'est vraiment... On a une technique en soi. Voilà, j'aime bien l'émission « Alors on dit quoi ?» de 14h. Ça, on s'en rappelle.
On s'en rappelle.
Voilà, on s'en rappelle. Et on met tout ça en place, la technique, des caractères. Et aussi, pour sécuriser, comme je disais tout à l'heure à quelqu'un qui a posé une question, c'est la double authentification.
Oui, mais par exemple, on a parfois nos ordinateurs qui nous proposent des mots de passe robustes. C'est pour ça que ce terme me parle. Ouais. Est-ce que c'est mieux de le prendre?
Alors, on peut prendre ces mots de passe-là.
Ils sont hyper compliqués. Fait du copier-coller, on le conserve.
On fait du copier-coller. En général, ce qui est proposé sur les navigateurs, c'est parce que le mot de passe est enregistré dans le navigateur.
Oui.
D'accord? Alors, nous, en tant
qu'experts... Mais c'est prudent, d'ailleurs, de les enregistrer?
Nous, en tant qu'experts, pour nous, ce n'est pas la meilleure méthode de faire. C'est plutôt d'utiliser un coffre-fort. D'accord? De la même manière, à la maison, vous avez un coffre-fort dans lequel vous allez mettre vos beaux bijoux. Voilà. Il n'y a que vous qui connaissez le code. Et là, il y a la même chose en numérique. C'est un coffre-fort dans lequel vous allez ranger tous vos mots de passe. Et il va vous proposer des mots de passe très robustes. D'accord? Pour trouver ces mots de passe-là, il faut vraiment, se lever tôt. Et c'est très sécure. Voilà. Il y a des outils qui sont très simples, accessibles à tout le monde et qui sont gratuits.
Une application où on garde tous nos mots de passe dessus.
Par exemple. C'est une des solutions qui est recommandée, exemple.
Bon, on regardera. Moi, je suis...
Et un dernier point sur notre adresse mail. Il y a un outil qui est en ligne. Tout le monde peut aller dessus. C'est Have I Been Pwned. Vous allez dessus, vous mettez votre adresse mail, il vous dira si votre compte a été piraté ou pas.
Oh, super! Alors ça, Beverly Santou, hein, faut bien noter pour nos auditeurs. Même moi, je vais tester, tiens. On ne sait jamais. Et puis, si on est piraté, on fait quoi alors?
Alors, si on est piraté, du coup, là, pareil, on a des mesures à prendre. Bah, la première chose, c'est que On va aller changer son mot de passe.
Ah bah oui, voilà. Tout de suite.
On va aller changer son mot de passe, parce que ça veut dire que si le site vous le met, c'est simple, hein, rouge ou vert. Voilà, quand c'est rouge, ça veut dire que voilà, c'est.
Et le, ça veut dire qu'on peut avoir été piraté sans même le savoir.
Bien sûr, exactement. Bien sûr. Alors, parce que les pirates informatiques aussi, en fait, sont très patients. Uh-huh. Ils peuvent entrer dans le système pour le nuire, mais avec un objectif initial. Mm-hmm. Et puis après, ils restent dedans, ils voient comment ça marche.
On va fouiller, regarder
les transactions qui vont passer, mm-hmm. et attendre le bon moment en fait pour piquer.
Oh, c'est terrible tout ça. Hein. Bon, ben on va justement parler encore de cette cybersécurité. On écoute Boosta 929. Exposition numérique des fuites de données et des attaques de hackers. Hein. Quelle solution pour protéger nos cyberespaces? C'est comme ça qu'on dit. Hein. Confirmez. Bon, bah, très bien. On va écouter un autre auditeur qui veut nous poser une question. Il s'agit d'un auditeur au Mali, Aliou Nyang. Bonjour.
Bonjour Diarra, comment vous allez?
Ça va et vous? Ça fait plaisir hein, d'avoir des auditeurs maliens. Hein, parce que bon, nous on vous cherche, hein, on veut être écouté chez vous, mais on ne peut pas.
Non, c'est difficile d'écouter, mais si on a des personnes, c'est moi.
Merci, alors il faut passer le mot, hein, faut demander à tous les Maliens d'installer des VPN. Hein, comme ça, oui. Vous allez écouter, alors on dit quoi? Tous les samedis à 11h10 temps universel. Voilà, c'était ma petite publicité. Merci Aliou, merci infiniment. Hein. Plus sérieusement, alors posez-nous vos questions, elles sont très pertinentes et on en a un petit peu parlé, mais je vous laisse la parole.
Oui, j'ai écouté l'émission et vous avez tout de partout, parce que ces dernières semaines, la plupart de nos banques d'Afrique diverse ont vécu des cyberattaques, notamment la BOA, la Banque of Africa, et celui de l'Afrique centrale, la DGFI. Ce qui m'a le plus surpris, c'est que lors de la cyberattaque en cours, les agents de la BOA n'étaient pas au courant. Donc j'appelle le directeur commercial, je lui dis « Ah, je vois des informations stipulant que la banque a été attaquée », il me dit « Il n'est pas au courant ». Et une ou deux semaines, on reçoit des mails de toutes parts. Et ce n'est pas des mails de particuliers, c'est des mails vraiment sophistiqués. Donc on dirait que c'est la banque même qui t'envoie la mail. Donc on a tenté au niveau de ces institutions, mais on ne comprend vraiment pas comment ces institutions fonctionnent. Parce que bien sûr, ils sont même leur premier communiqué, ils ont été diminués. Donc ils ont dit qu'ils n'ont pas été victimes, la situation est tout contrôlée, tout. Donc ma question, j'espère, c'est quelles mesures ces banques doivent prendre d'abord pour savoir s'ils sont attaqués ou pas. C'est la base quoi pour moi.
Alors la deuxième question, très rapidement, à l'Union.
Oui, la deuxième question, ça concerne nous-mêmes. Parce que les banques ici en Ouest-Afrique, ils prennent à la légèreté et les cyberattaques. Au point où on ne considère pas que les données sont importantes à leurs yeux. Donc, quels moyens nous-mêmes on dispose pour se protéger, en dehors des outils bancaires, nous-mêmes, pour se protéger, nos données personnelles.
Voilà, c'est ça.
Merci infiniment à Liu. Hein. On s'excuse pour la qualité audio. Hein. Néanmoins, il a posé des questions très pertinentes. Hein. On en a parlé un petit peu autour de la banque tout à l'heure, des attaques de grandes banques africaines, BOA, BGFI Bank, qui se font attaquer. Alors, lui, il explique qu'il n'était pas au courant. Et au-delà de ça, s'inquiète aussi du point de vue de la clientèle. Lui-même est client de ces banques. Quels sont les moyens dont disposent les clients, Abdulrahman, pour se protéger eux-mêmes?
Oui, alors c'est vrai que c'est une attaque qui s'est produite, donc que j'ai suivi, effectivement... Pas vraiment en live, mais en décalé de 2-3 heures.
Ouais.
Et effectivement, la banque avait nié en fait, avoir été attaquée. Et,
elle nie parce que ça ne rassure pas les clients.
Oui, elle nie parce que ça ne rassure
ça
pas.
Ça montre une faiblesse aussi. Hein.
Oui, oui ça montre ça. Forcément une faiblesse, mais je pense que nier aussi n'est pas la meilleure attitude à adopter en fait, lorsqu'on est piraté vis-à-vis, bien sûr, de l'engagement qu'on a à ses clients. Et pourquoi, justement, en fait, c'est arrivé jusqu'à ce que ces clients-là reçoivent des emails. Parce que les pirates en question, en fait, ont menacé de publier ces données-là par le fait que la banque a nié. Au début, ils demandaient des rançons. Donc, la banque a dit non, c'est pas vrai, on n'a pas été piratés.
Donc, eux, ils sont très mal conseillés. Hein.
Exactement. Et donc, eux, les pirates, ils ont voulu montrer que c'était vraiment effectif le hacking. Ouais. Et donc, ils sont allés jusqu'à communiquer. Donc, ça veut dire que la partie la plus difficile, en fait, de la chaîne d'exploitation a été effectuée, c'est-à-dire de voler ces données-là. Mm-hmm. Bah, lorsqu'il s'agit, en fait, d'envoyer des mails, bon, voilà, c'est moins compliqué que de pirater.
Ouais.
Maintenant, en fait, en Afrique aussi, je dis pas qu'ils sont pas soumis à des contraintes réglementaires ou institutionnelles, comme on peut en France. Si je prends l'exemple en Europe de la réglementation sur les données à caractère personnel, les entreprises sont auditées et si elles sont pas conformes, elles peuvent être sanctionnées, par exemple, à 4% de leur chiffre d'affaires. Donc, indirectement, ça les pousse à se conformer et à mettre des mesures de sécurité en place.
Mm-hmm.
Je ne dirais pas que ce n'est pas le cas en Afrique, parce que, par exemple...
Il y a un cadre réglementaire qui date de 2014,
voilà, il y a un cadre réglementaire, ouais. Notamment avec, je pense, la BCAO ou l'UMOA. Mais malheureusement, on n'en voit pas très souvent des instituts se faire sanctionner parce qu'ils ne respectent pas la sécurité, parce qu'ils ne respectent pas, par exemple, l'image, la réputation qu'ils peuvent devoir avoir vis-à-vis de leur engagement.
Mm.
C'est ce qui fait aussi...
Mais Aliou voulait savoir aussi quelles sont les mesures que les banques peuvent prendre pour protéger leurs données.
Elles sont conscientes par moment parce qu'elles sont aussi auditées et les non-conformités sont rappelées.
Ouais.
Mais alors, il faut aussi reconnaître qu'en Afrique, il y a un manque énorme de ressources, de compétences dans le domaine. Et aussi, il faut le reconnaître aussi, un manque de sensibilité au sujet.
On va aller installer Midadi Consulting à Dakar, peut-être.
C'est un peu le but, c'est aussi d'accompagner et d'aider ces entreprises-là, effectivement, à garder cette future cyber-réputation, on l'espère bien, mais aussi à rassurer les clients. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, la concurrence, elle va être beaucoup plus rude. Parce que si le client, comme il vient de le dire, notre ami du Mali,
Aliou
du Mali, est bien en fait, sensibilisé, bah, il va faire l'effort de voir en fait, le partenaire banquier avec qui il va travailler. Et donc, ça poussera en fait, les banques
absolument,
à réagir et à se mettre en conformité.
Abou, il y a une question souvent quand on entre sur un site internet, on nous demande de faire un choix pour vos données. Cette fameuse question, avant d'accéder à tous les sites, on la voit. De quoi s'agit-il? Moi, je mets des fois tout refusé, je suis pressé, des fois, je mets tout accepté. Faites votre choix, qu'est-ce qu'on doit faire réellement?
Oui, effectivement, alors ça, on a tous cette attitude-là. Hein.
Oui.
On arrive
sur
le site.
Ah, ça me rassure, même vous, en tant que expert en cybersécurité.
Non, alors, en tant qu'expert, quand même, on va tout simplement... je mets beaucoup non, refuser.
Ah, refuser,
voilà,
d'accord.
Parce qu'on peut le mettre
aussi.
Moi, je
ferais ça maintenant.
Voilà.
Mais des fois, quand on refuse, on nous envoie vers des pubs, on nous envoie ailleurs, du coup, on met accepter.
Oui, après, voilà, il y a le compromis. Voilà, il y a le compromis, c'est quand... En contrepartie, quand on accepte tout, voilà, le site accepte voilà, de ne pas mettre, de faire de pub, de faire accéder directement à l'information.
Oui.
Voilà. Alors ça, c'est vraiment au choix de chacun.
D'accord.
Mais voilà, comme disait Abdulrahman, les sites sont soumis à une réglementation de protection des données. Voilà, ça, c'est une obligation, en tout cas sur la partie Europe et sur la partie Afrique. Voilà, pareil, c'est des choses qui vont arriver pour protéger les données de tout le monde.
Il y a une autre manière de lire en fait, cette question d'accepter ou de ne pas accepter. Parce que c'est une mesure de sécurité. C'est pour ça que je dis qu'il y a une autre manière de la lire, ça.
Ouais.
Parce que c'est un recueil de consentement. Et en fait, parce que c'est des cookies de connexion qui sont récupérées lorsqu'on est accepté.
Mmh.
Et vous vous rendez compte que souvent, vous surfez sur Internet ou sur Facebook, hein, et derrière, vous retrouvez des publicités parce que vous avez cliqué sur en fait, des baskets, vous avez cliqué sur l'achat. Parce qu'ils ont recueilli ces cookies-là, ils se le partagent à travers l'intelligence artificielle et donc vous placent des publicités ciblées. Donc, effectivement, avant l'arrivée du RGPD, les entreprises le faisaient sans qu'ils soient
contraints. Respect de la protection des données, c'est ça?
Voilà, en fait, les entreprises le faisaient sans être en fait obligées de recueillir ce consentement. Et aujourd'hui, c'est cette question qui est posée parce qu'ils sont obligés de respecter le RGPD. Mmh. Donc, il faut absolument que soit on accepte ou on n'accepte pas, mais la question doit être posée.
Et quel réflexe on doit avoir? Tout à l'heure, vous avez cité un site internet qui pourrait nous indiquer si on a été piraté ou pas. Alors, effectivement, on change de mot de passe, mais est-ce qu'il y a d'autres actions à mener de façon urgente quand on sait qu'on n'a plus le contrôle, surtout de sa page Facebook ou de sa page Instagram?
Alors, on a d'autres réflexes à avoir. C'est que si on a été piraté, c'est aussi de vérifier est-ce qu'il y a eu ce qu'on appelle une redirection de ces mails. D'accord. Est-ce que le pirate, voilà, comme le disait Abdourahman tout à l'heure, le pirate, il prend son temps. Il n'est pas pressé, il va s'installer et il se dit, là, il a piraté votre compte, peut-être vous allez vous en rendre compte, vous allez tout changer. Et pour continuer à rester, il peut modifier le paramétrage de votre compte, par exemple, pour rediriger tous les mails que vous recevez vers son adresse mail à lui. D'accord. Ça, c'est des réflexes que vous pouvez avoir pour regarder. Et après, surtout, quand on se fait pirater, ce qui est très important, c'est surtout d'avertir tous ses contacts.
Ah ben oui.
Voilà, il faut les avertir.
Voilà. Autre chose intéressante, on partage beaucoup de photos, beaucoup de vidéos. Parfois sur Snapchat, on est même géolocalisé, on peut le faire. Est-ce qu'on a des comportements un peu plus prudents à adopter quand on partage des contenus parfois sensibles?
Alors sur le partage de photos, là c'est vraiment personnel. En général, moi, je recommande de ne pas partager des photos
compromettantes, on va dire,
trop intimes, parce qu'on ne sait pas ce qu'on peut faire derrière. Et aujourd'hui, avec l'événement de l'intelligence artificielle, vraiment, on peut changer le contenu d'une photo.
Oui.
On peut changer le contenu d'une photo, voilà, pour des intentions malveillantes derrière. Mmh. Voilà, faut faire très attention à ce qu'on partage et aussi ne pas trop partager non plus.
Mais voilà. Ce qui est par exemple dans le cloud, on peut se faire pirater. Il y a des stars qui ont été piratées, de grandes personnalités qui ont été piratées et on a accès carrément au cloud. Donc là, c'est même pas un partage, c'est notre téléphone qui est piraté. Est-ce qu'on peut avoir des conseils peut-être pour éviter cela? Là encore, on parle du mot de passe, ou c'est bien au-delà de ça?
Forcément, on revient sur le mot de passe parce qu'en fait, si ça respecte les caractères que venait de citer Abou...
Ils sont trop compliqués. Moi, je n'adhère pas.
Les caractères de Robinson. Moi, je pense que non, en fait. Par exemple, alors on dit quoi? Je mets mon arrobase pour la première lettre, c'est un A.
Oui.
On dit quoi? Enfin, je prends le O, je mets du 0.
Oui.
Le I qui suit sur le 10, je mets le chiffre 1. Donc voilà. Ça, en fait, des mnémotechniques qui permettent en fait de maîtriser son mot de passe et de le rendre
robuste. Est-ce qu'on doit avoir un seul mot de passe? Parce qu'on a tellement de mots de passe qu'on s'y perd aussi.
Alors c'est totalement banni en fait.
C'est banni, surtout pas. Oui. Et quand on est paresseux comme Diaran Diaye.
Il faut avoir le mot de passe très robuste et plusieurs mots de passe différents. Pourquoi en fait c'est pas recommandable? Parce qu'à partir du moment où le premier est piraté, en fait,
tous les autres, bien sûr, vont l'être. Merci infiniment, les garçons, pour cette belle émission. J'espère que nos auditeurs ont bien écouté, en tout cas moi la première. Je vais essayer de suivre tout cela avec vraiment précision. Merci à vous, Abou Ndiaye. Je rappelle que vous êtes donc le fondateur de l'entreprise spécialisée en cybersécurité Licanam. Et merci à vous également, Abdourahman Sarro. Vous êtes le fondateur de Midadi Consulting, toujours autour de cette spécialisation, autour de la cybersécurité. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à Bevardi, Guillaume Daba, à Blaguey de m'avoir aidé à préparer cette émission. À bientôt.